Jean Lorrain, Dolmancée. Sadique, sadique, on croit voir tout qu'on dit quand on a épinglé cette épithète au dos du premier maniaque, enfin, je veux dire du dernier maniaque venu. Parole d'honneur, mais c'est à hausser les épaules ou à se tordre? Et d'un coup de pouce, étalant sur la table le jeu de cartes qu'il était en train de battre, « Oh, les Anglais sont autrement forts que nous sur ce chapitre !» Et, les lèvres tirées par un équivoque sourire, notre hôte, Gérard Asseline, continuait à échelonner sur le tapis vert les rois de cœur et les as de pique de sa réussite solitaire. Dehors, le vent soufflait en bourrasque et la mer striée d'écume, à la fois verte et blanche sous un ciel couleur d'écailles d'huître, se démenait avec un bruit sourd entre les deux hautes falaises, toutes ruisselantes de pluie. Il pleuvait depuis le matin, il avait plu encore la veille, et retenus à la villa des Saules par de torrentielles ondées d'équinoxe, voilà 2 jours que nous nous cantonnions désespérément, mélancoliquement, essayant de tuer le temps et de tromper notre ennui par de successives parties de baccarat dans le grand hall transformé en salle de jeu de la villa. L'heure du courrier apportait seule une diversion à la monotonie de nos occupations, jetant au milieu de notre lassitude l'imprévu des lettres particulières et les racontars plus ou moins frelatés des journaux. Or, le courrier venait d'arriver. Comme la veille, avide de nouvelles, nous avions déployé fiévreusement les feuilles, tandis qu'Asseline, assez indifférent, tentait une illusoire patience avec les cartes du baccarat, soudain abandonnées. Georges Moore, Jacques de Tracy et moi, préoccupés de l'affaire Bloch, venions avec un ensemble touchant d'en lire le jugement, et c'est ce jugement que nous discutions à voix haute, d'une extrémité du hall à l'autre, des divans respectifs où nous étions étendus, et c'est cette discussion, malgré nous passionnée et toute d'indignation frémissante, que le flegme indolent d'Asseline venait de doucher de toute la froideur de sa phrase railleuse. Les Anglais sont autrement forts que nous sur ce chapitre. Mais comment rendre le geste fatigué de notre hôte et le dédain somnolent de sa voix? Et comme nous nous récrions tous, trop heureux et flattés, disions-nous, de céder là-dessus la supériorité au sujet de sa gracieuse majesté. « Vous avez tous lu la Faustin ?» poursuivait tranquillement Asseline. Question à laquelle Georges Moore ayant répondu par un vibrant « Ah, mais ça, pour que tu nous prends donc ?» Asseline avait un mystérieux sourire, et tout en arrangeant ses cartes, « Et vous vous souvenez tous de l'honorable Lord Selwyn, l'inquiétant et fuyant personnage de la fin du volume, et du scandale soulevé lors de l'apparition du livre autour de ce nom. Nous nous étions tus tous les quatre, ne sachant où voulait en venir Asseline. Lui s'était levé, était allé à sa bibliothèque et, prenant dans un rayon une merveilleuse reliure en peau de truie, feuilletait une minute et, d'une voix devenue mordante, il lisait maintenant, détachait, mettait en valeur tous les mots, l'épaule à côté à l'angle de la bibliothèque. Au fond, décidément, qu'est-ce que votre ami Selwyn ? Lord Annandale, occupé à allumer son cigare, en tira lentement une bouffée, regarda sa maîtresse en plein visage et dit « Jean Selwyn, c'est un sadique !» Et, sur une muette interrogation des yeux de Faustin, il ajouta « Oui, un homme aux amours, aux appétits d'essence déréglés, maladifs. Mais qu'est-ce que ça vous fait dans la vie, sa vie ?» Et il se mit à se promener dans le salon, en laissant tomber de sa bouche Une grande, une très grande intelligence, un savoir immense, et un vieil ami de jeunesse. Et puis là-dessus, un silence. Sortez-vous aujourd'hui, Juliette ? Fit-il au bout de quelques instants. Oh non ! Sur cela, Lord Allendale se dirigea vers les écuries. Et avec un bruit mat, Asseline refermait le livre de M. de Goncourt. Le charme évocatoire de ces quelques lignes lues à haute voix avait opéré. Nous avions tous maintenant présent à la mémoire et dans les moindres détails le louche et mystérieux ami de Lord Allendale. Nous revoyons tous et la fleur rose de sa boutonnière à la queue baignant dans un flacon plat caché sous le rayon de revers de l'habit, et son front d'hydrocéphale, et sa figure de vieille femme, jusqu'à ses vêtements prétentieux et tachés, et ses mains desséchées, se terminant aux deux petits doigts par deux ongles enfermés à la chinoise dans un étui de métal. Entre-temps, la pluie avait cessé de tomber, et par la large bay window de l'atelier, la plage, tout à coup baignée de soleil, entre la double avancée des falaises, celle d'amont et celle d'aval, apparut lumineuse et comme transparente dans le brusque bleuissement du large. « Et dire que, dans ce décor d'opéra comique, ricanait notre hôte et lecteur Asseline, on est parfaitement exposé à croiser le spectre à demi rassurant de l'honorable Jean Selwyn. » « Comment ici, à Étretat même, entre la silhouette autrefois romantique d'Hamlet fauve et le vivant souvenir de Guy de Maupassant ?»« mais oui, persiflait Asseline, avec un clignement d'yeux à mon adresse. Il y a quelque 30 ans, un homme d'allure étrange venait s'établir à Étretat, pas l'Étretat d'aujourd'hui, où les femmes se baignent en bas de soie de couleur, mais Étretat, simple hameau de pêcheurs, des masures et des vergers. Et c'est dans une vraie chaumière à toit de chaume, au beau milieu d'un préau de pommiers, que s'installait notre inconnu. Mais devant les yeux s'étendait l'horizon que voici, et tout alentour de profondes cavées, les chemins creux, ombragés et toujours frais, même au moment de la canicule que forment les hauts talus plantés de hêtres et de frênes de ce pays. Oui, en pleine verdure, comme je suis ici, à mi-vallée, déjà loin de la mer, une vraie retraite d'artiste ou de grand seigneur épris de solitude. Aucun changement ne fut opéré par le nouveau propriétaire. L'extérieur de la chaumière demeura le même. Seulement, à l'intérieur, s'épanouit, dit-on, un luxe d'ameublement et de tenture bizarre, luxe de sorcellerie ou tout au moins d'hystérie pure. On en parlait d'ailleurs que d'après les furtifs regards coulés par les fenêtres ouvertes, car personne dans le pays, pas même les fournisseurs, ne pénétrait dans Dolmancé. Dolmancé, le nom désormais inscrit en lettres noires sur la porte charretière de ce lieu de mystère. Dolmancé, j'abandonne à vos appréciations, messieurs, le choix de ce nom pour une villégiature. Nous avons tous lu, ou du moins essayé de lire, l'œuvre du divin marquis. C'était, paraît-il, entre autres merveilles, dans une longue, étroite et haute pièce tendue de soie violâtre, un squelette d'enfant ailé, comme un Eros, au crâne ceint de myrte, voilé de gaze noire et ricanant, debout, au milieu d'un taillis de lauriers roses en fleurs. Dans une autre salle, celle-ci nue comme une allée de catacombes, un buste de bronze vert aux yeux d'argent bruni, incrusté d'une émeraude, tête de femme renaissance au regard de pierrerie, émergeait d'un flot de clair brocart et de bruissantes étoffes, avec sur le front un nain. D'ailleurs, une cire peinte aux yeux inanimés, aux lèvres entr'ouvertes, chef de sainte décapitée, saignait, accroché à la muraille, au-dessus d'un large bassin de cuivre débordant de lys rouge, comme d'une floraison de sang. Autre part, enfin, un grand portail portrait de femme, qu'on eût dit de Vinci, vous offrait l'énigme de son sourire au fond d'un vieux cadre d'argent bossué de fruits d'agate et de raisins d'onyx. Et partout, des voiles de gaz jetés, compliquant les êtres et les objets de troubles et de mystères, puis dans des vases de forme hiératique, une éternelle veillée de fleurs, hostiles et symboliques, des liliums, des arthuriums et des orchidées, enfin, toute une flore méchante, posée comme une offrande au pied de chaque idole. Tout un intérieur empreint d'un mysticisme sombre, à la fois catholique et païen, installation de fous ou de vieux Coppelius, entrevue à de rares intervalles par l'entrebâillement des vitraux émaillés de devises archaïques sur fond d'azur glauque sablé d'or. Et dans le logis, personne, personne autre que l'homme aux allures étranges, promenant ses épaules voûtées et sa ricanante figure de vieille derrière la haie vive du préau. Cependant, parfois, deux êtres de rêve ou de cauchemar, tout au moins aussi inquiétants que leur maître, un enfant et une guenon. Une grimaçante et minaudière guenon, presque féminine de coquetterie et d'attitude, presque humaine de laideur et toujours blottie dans le clair-obscur des pièces somptueuses dans quelque pose énamourée. Au cou, un collier de métal bossué de turquoise, des bracelets autour de ses petites mains noires, une vraie macaque aux allures d'infante, et comme une infante, sachant au besoin, porter la robe espagnole et bouffant et jouer de l'éventail. Quant à l'enfant, une merveille de beauté, un vrai page de Memling, 14 ou 15 ans au plus, un de ces boys comme l'Irlande seule en produit, aux yeux bleus flore, aux cheveux clairs, nimbant le front d'un reflet de soie, le régal de chairs blondes et fraîches. Mais vivant là, solitaire et farouche, plus invisible encore que la coquette guenon, comme dérobé avec un soin jaloux, caché à tout regard, l'air d'un Ariel captif ou d'un jeune prince envoûté de légende. Tout a été depuis supposé, imaginé et dit sur le trio. Mais alors la guenon, constellée de bijoux et minaudant, affublée de craquantes étoffes, indignait surtout l'opinion des campagnes. Les paysans ont des chèvres et un érudit du lieu cita à l'appui de Balzac une passion dans le désert. Mais la vérité dans tout ceci, une nuit, la chaumière de Dolmancé, ordinairement murée de silence, s'emplissait de vacarme et de cris. C'étaient des jurons exaspérés, des voix de colère, des sanglots et des plaintes, puis un bruit de dispute et des appels déchirants, puis un grognement rauque, un râle. Tout le village, une angoisse à la gorge, avait passé cette nuit-là debout, les fenêtres ouvertes, le cou tendu, dans la direction de Dolmancé. Le lendemain, le menuisier du pays était mandé à la chaumière. Il recevait du propriétaire la commande d'un cercueil d'enfant en cœur de chêne, et le cercueil livré, payé le double de son prix, 3 jours après, la chaumière était fermée, volet clos, porte condamnée, et l'honorable disparu. Une chaise de poste était venue le prendre dans la nuit. Quant au Memling et à la guenon, depuis la nuit des plaintes et des appels, personne ne les avait revus. Pour qui le cercueil? Pour l'enfant blond? Pour la macaque? Mystère. Un crime à n'en pas douter avait été commis. On a parlé longtemps de jalousie et de vengeance. Mais quel lien pouvait unir entre eux ces trois êtres bizarres? Quel caprice sinistre avait bien pu les désunir? Un conte d'Hoffmann, concluait de Tracy. Ou une farce à la Vivier, insinuait George Moore. L'ordre et le pays du fun. Le fun, la farce à froid, sinistre, exaspérante. L'Angleterre est la patrie de ces gaietés affiées, coupantes comme l'acier. L'honorable Selwyn n'était peut-être qu'un mystificateur macabre, ayant pioché son Swift et son Poe. Toujours est-il, reprenait Asselin, que 2 mois après, une voiture de déménagement venait emporter le mobilier de Dolmancé. Le nom du domaine disparaissait de la porte charretière, et la masure, le pré, le verger, tout était mis en vente chez maître Récipon, notaire à Criqueteau, où mon père s'en rendait acquéreur. La villa des Saules et l'ancien Dolmancé. Vous êtes, mes amis, sur les lieux du mystère. Nous regardions tous Asselin dans les yeux. Il avait repris tranquillement place à la table du jeu. La pluie retombait de plus belle et les grands hêtres du jardin, secoués par la bourrasque, courbaient éperdument leurs cimes bruissantes.